Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmoundi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le grand dialogue de ce mardi, nous revenons sur l'excision. C'est à la faveur de la journée mondiale contre cette pratique, une journée célébrée ici au Mali le 6 février dernier. Pourquoi une journée mondiale contre les mutilations sexuelles? Parce qu'aux yeux de l'Organisation mondiale de la santé, la pratique constitue un véritable fléau au regard de ce qu'elle peut avoir comme conséquence selon l'OMS. Entre 130 et 140 millions de femmes ont subi une telle ou telle autre forme de mutilation génitale. Par an, souligne-t-elle, ce sont 3 millions de filles qui sont exposées à des mutilations génitales ici au Mali, selon les résultats de l'enquête démographique et de santé. 69% des filles de 0 à 14 ans dans les 5 premières régions du pays et dans le district de Bamako qui ont donc été victimes de mutilations génitales féminines. Cela fait plus d'une décennie que les autorités ont engagé le combat contre l'excision, avec notamment à l'appui des campagnes de sensibilisation. Alors, comment est perçue la pratique de l'excision aujourd'hui au Mali? Les campagnes menées et celles en cours ont-elles contribué à diminuer l'ampleur du phénomène? Y a-t-il une réglementation à la matière? Si oui, est-elle appliquée? Pourquoi certains Maliens croient toujours que la lutte contre l'excision est une lutte imposée par l'Occident? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles tenteront de répondre nos invités qui sont Mme Kone Faridjop, elle est de l'AMPF, c'est l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille, antenne de Bamako. Le Dr Aissata Diakité Ouattara, elle sera là dans un instant, elle est de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, l'APDF. Modibo Kansai est imam, Modibo Kansai est ici présent dans le studio. Youssouf Bagayoko du programme national de lutte contre l'excision est en ligne et Nathalie Siribé de l'association Femmes Leadership pour le développement durable AFLD sera elle aussi en ligne dans un instant à la présentation Seydou Fomba.
Le grand dialogue.
Auditrices, auditeurs, bienvenue. Le Mali vient de célébrer donc la journée mondiale de lutte contre l'excision, une occasion pour tenter de faire l'état des lieux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, cette question, au bout de plus d'une décennie de lutte contre l'excision, le regard du Malien en général sur la question a-t-il véritablement changé? Autrement dit, comment perçoivent aujourd'hui les Maliens de façon générale la pratique de l'excision? Je pose la question en premier lieu à vous, Madame Kone Faridjop de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille.
Merci. Merci au studio Tamani d'inviter la MPPF à ce dialogue, à ce débat sur l'excision. L'excision, comme vous l'avez dit, est perçue pour le moment encore, et c'est d'ailleurs ça qui pose le problème, qui fait la difficulté de la lutte, est encore perçue comme une pratique qui est là depuis des siècles et qui est une pratique qui fait partie de nos coutumes qu'on ne peut pas abandonner parce que tout simplement l'Occident le veut. Ce qui est difficile, c'est qu'on pense que l'excision, la lutte contre l'excision, et surtout nous vient d'ailleurs. Ça nous est imposé par l'Occident. On occulte les problèmes que pose l'excision au niveau de la famille, au niveau de la santé de la femme. Et donc, vraiment, c'est les organisations de la société civile, l'État, font beaucoup pour sensibiliser, pour lever justement cette incompréhension qui pèse sur la lutte. Et je pense qu'au bout du compte, on trouvera les solutions les meilleures.
Nous avons en ligne M. Bagayoko Youssouf. Il est donc du programme national de lutte contre l'excision. M. Bagayoko, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, dites-nous la perception de l'excision aujourd'hui et par le Malien en général. Comment est-ce que vous la trouvez?
Je vous remercie. Je salue tous les panélistes qui sont en train d'exposer sur la question. Je remercie également le studio Tamani pour avoir initié cette journée d'information par rapport à l'excision. Et je sais que vous êtes un réseau mieux câblé, écouté. Ça permet en tout cas à nous, au niveau des acteurs de lutte contre la pratique de l'excision, d'intervenir pour mieux informer les populations par rapport à cette question. Et je vous remercie. Et en fait, la pratique de l'excision, comme vous le savez, on en parle depuis très longtemps. Et la journée du 6 février, vous l'avez dit, je vous ai écouté, est une journée que le Mali célèbre depuis 2004, alors avec des thématiques bien différentes. Alors, c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention des populations, mais aussi des décideurs sur tout ce qui est comme problème rencontré, tout ce qui est comme défi à relever par rapport aux mutilations génitales féminines. Alors, la perception d'aujourd'hui du Malien, elle évolue parce que, et comme vous le savez, le sujet, il est discuté et partout, hein, qu'on soit d'un petit âge, qu'on soit moins âgé ou plus âgé, qu'on soit de sexe différent, qu'on soit un leader religieux, futile. En tout cas, la question, elle est débattue par toutes les couches sociaux, en tout cas professionnelles au Mali. Alors, la mentalité qui prévalait dans le temps, la valeur morale, le patrimoine et moral qui était transmis lors des scènes d'excision, alors nous savons que c'était la pratique ancienne. Nous savons que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et surtout, tout ce qu'on accordait à cette pratique, alors nous constatons petit à petit que ce n'est plus la même valeur qu'on accorde. Parce que nous comprenons aujourd'hui les problèmes liés à cette pratique. Ce qui fait que les complications, surtout au niveau sanitaire, au niveau psychologique, au niveau social. Alors tout ce qu'on est en train de constater, tout ce qu'on est en train d'observer, alors ont permis aux uns aux autres non seulement de discuter la question, mais aussi de fléchir leur position parce qu'ils ont compris que cette pratique n'est pas une pratique, surtout, comme on le dit, religieuse, musulmane surtout, parce que c'est ce qui est entendu le plus. Alors que nous savons que c'est une ancienne pratique qui est antérieure à ces religions révélées. Alors, la perception d'aujourd'hui, en tout cas, change, parce qu'il y a des communautés qui, publiquement, qui avaient refusé de recevoir les animateurs des ONG, des associations, mais aujourd'hui, à force de persévérer, ont compris qu'effectivement, c'est un problème, surtout un problème de santé publique, et jusqu'à ce que ces communautés-là, par finir, ont non seulement vu les conséquences, sont témoins des conséquences, alors ont accepté de faire des déclarations, pas seulement des déclarations entre elles, mais des déclarations publiques à travers les antennes radio, à travers la télévision, pour montrer que cette pratique n'est plus d'actualité. Parce que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est l'actualisation des normes sociales. Parce que l'excision est considérée comme une norme sociale. Alors qui est en cause? Parce que, comme je l'ai dit, toutes les valeurs qui étaient liées, en tout cas, toute la socialisation, tout ce qu'on peut imaginer était lié à cette pratique, ne sont plus d'actualité. Voilà.
Nous avons dans ce studio Dr Aïssata Diakité Ouattara. Bonsoir, Madame Ouattara.
Bonsoir, monsieur.
Alors, première question à vous. Comment est-ce que les Maliens voient aujourd'hui l'excision? Est-ce que leur façon de voir ce problème a évolué?
Je dirais que oui, leur façon de voir a beaucoup évolué. Parce que avant l'excision était considérée comme un thème tabou, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. On voit qu'on en discute partout, en groupe, dans les grains, autour des femmes, dans les marchés. Ce n'est plus un tabou.
Donc ils ne voient plus l'excision comme on la voyait il y a 20 ans.
Non,
c'est différent.
Pas du tout, très différent. Il y a une très grande différence.
Mm-hmm. Alors, nous avons dans ce studio l'imam Modibo Kansai. Monsieur Kansai, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vois que vous êtes intéressé par le sujet qui est donc au centre de notre débat d'aujourd'hui. C'est donc l'excision, vous l'avez suivi. Alors, dites-nous, la religion, comment est-ce qu'elle voit l'excision aujourd'hui?
Ah, bon.
La religion musulmane, bien entendu.
La religion musulmane, bon. Pour l'excision. Pour les femmes, il n'y a pas de problème. Parce que avant ça, il y a une femme qui était en Médine, C'est ça qui est fait avant que le prophète soit prophète. Dès qu'il est venu à Médine, il a appelé les femmes là, il a demandé comment tu fais. Il a montré, donc il a dit, c'est un point, ça traduit, il faut faire beaucoup attention. Souvent tu blesses ou bien souvent tu fais des milliers. Donc il a montré les façons de faire. Si l'islam voit que c'est une chose qui n'a pas important, donc depuis cela, Mohamed dit non, il faut laisser.
Ah, mais Imam Kansai, je sais qu'au niveau de vous, leaders religieux, leaders musulmans, le sujet fait également débat parce que j'ai entendu quand même des leaders religieux dire que ce n'était pas une obligation.
Oui, je ne dis pas que c'est une obligation, mais comme le prophète l'a dit, c'est une chose, c'est pour le côté de l'exigence des femmes, c'est comme il a dit, makrama, c'est-à-dire, c'est comme si les femmes font, donc tu deviens une grande femme. Donc que c'est quelque chose qui a fait que tu es grand, si tu as laissé comme c'était, tu es diminué. Hein? Mais, c'est que c'est. Mais en façon de faire, il faut trouver comment on fait. Est-ce que si on fait des faits, ça c'est bon ou bien c'est pas bon? C'est maintenant l'islam peut parler de sept points.
Ah oui, mais l'imam, la société, elle évolue, la religion, elle aussi. Vous avez quand même entendu que c'est une pratique qui peut créer beaucoup de problèmes aux filles.
Oui, mais c'est façon de faire seulement. L'important de l'islam, c'est façon de faire. C'est l'islam, parce que si ce n'était pas bon, Mohamed lui demandait qu'il laisse ce que moi j'ai retenu, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, comme là ou non aujourd'hui, souvent les musulmans disent que quelque chose qui, bon, qui n'est pas bon. Bon, si on dit ça, bon c'est une parole qui est un peu. Bon, qui
pas n'est facile. Pas.
Voilà, c'est pas facile. En tant qu'un bon croyant, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, on doit le voir des choses. Il faut qu'on voit si c'est blessant, il y a des sept points. Ça. Si ce n'est pas blessant, il y a sept points. Ça. Bon, si on dit que c'est quelque chose qui n'est pas bon, bon, c'est une coutume de ces années, je sais, mais l'islam, il a reconnu. Il n'a pas laissé d'une façon. Bon, il a fait attention d'une façon pour ne pas blesser les femmes.
Alors, cette question à présent, après tant de campagnes de sensibilisation, a-t-on pris conscience du danger qui représente, selon les spécialistes, l'excision pour la santé de celles qui la subissent? La question à vous d'abord, Madame Kone Faridjop.
Bon. Les études l'ont montré, le niveau de prévalence est encore très, très, très élevé. L'EDS parle de 91%. Des femmes de 15-45 ans qui sont excisées. Donc, je pense que la dangerosité de cette pratique n'est pas encore bien perçue. Si ça l'était, cela aurait évolué en décroissant. Bon, vraiment, et il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous montrent à quel niveau ce phénomène est dangereux et très grave. Nous, au niveau de notre association, au niveau de la société civile, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Nous mettons l'accent sur justement les séquelles que cette pratique cause au niveau aux femmes excisées. Les conséquences psychologiques que ça fait à la femme au niveau à toutes les étapes de sa vie. Mais je pense que vraiment il faut que les leaders s'impliquent, il faut que les religieux s'impliquent. Comme l'a dit l'imam, c'est une pratique qui n'est pas obligatoire. Je pense que beaucoup d'imams le pensent. Et ce côté, justement, peut être un point d'appui pour vraiment lancer la lutte, pour que les gens perçoivent. Parce que le plus souvent, le blocage, c'est au niveau religieux. Hein? Les populations, les familles pensent que c'est parce que c'est religieux qu'il faut, c'est une pratique religieuse. C'est pour cela qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Donc, je pense que les leaders religieux peuvent beaucoup appuyer pour sensibiliser davantage, pour que vraiment la perception change. Parce que quand même, cette perception est toujours que l'excision doit être menée comme elle a toujours été. Sinon, ça ne serait pas à ce niveau de prévalence.
Studio Tamani, 18h30, nous allons observer notre première courte pause.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Je rappelle aux auditeurs que le thème du grand dialogue d'aujourd'hui, de ce mardi, c'est la lutte contre l'excision au Mali. Où en sommes-nous pour en parler? Nous avons 4 invités. Nous avons Madame Kone Fari Diop de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille. Nous avons également l'APDF qui est représentée ici par la personne du docteur Aissata Diakité Ouattara, et donc de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes. L'imam Modibo Kansi ça est également là, il prend part au débat du PNLL. Nous avons Youssouf Bagayoko qui est en ligne et bientôt nous aurons Nathalie Silibier qui est de l'association Femmes Leadership pour le développement durable AFLD. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a des campagnes de sensibilisation, il y en a eu beaucoup. Mais quand même, quand on regarde les résultats, on a l'impression quand même qu'on est loin de l'effet escompté. Quel est votre avis sur cette question, Youssouf? Alors, voilà, je m'adresse donc à présent à Youssouf Bagayoko qui est au téléphone. Il est du programme national de lutte contre l'excision. Youssouf Bagayoko, dites-nous, il y a des campagnes, mais quand même, le résultat, il n'est pas tout à fait cela. L'effet escompté est encore loin, non?
Oui, en fait, ce que vous dites, je suis d'accord avec le docteur par rapport aux complications. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais réagir sur les propos de l'imam. Parce que je rappelle que le programme national de lutte contre l'excision a organisé 2 forats avec les leaders religieux musulmans de Kay à Kidal. En 2007, c'était à Ségou et en 2010, à Mopti. Alors, les religieux se sont prononcés sur le lien entre islam et excision. Alors, ils ont fait des déclarations et fait des recommandations. Alors, en termes de déclarations, il y a un point qui dit que, alors, lorsque des gens, des religieux pensent que l'excision est une obligation, ou encore d'autres pensent que c'est une sunna, et il y a une troisième catégorie qui dit que c'est une moustab, comme facultatif, alors dès que l'excision pose problème, on l'abandonne. C'est très important de souligner cet aspect, parce que le religieux doit être à l'écoute de l'agent de santé qui est le mieux apte à donner tout ce qui est comme complication, à expliquer tout ce qui est comme complication pour que le religieux puisse comprendre. Parce que lorsque une pratique porte atteinte à l'intégrité physique, à la personne humaine, à la dignité humaine, alors le religieux, tout ce qui est porté, tout ce qui est atteinte à l'intégrité de la personne humaine n'est pas islamique. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, le rappel qu'il a fait par rapport à Oumou Atiya, alors on le sait. Alors, celui qui a rapporté ces faits-là, alors, les religieux eux-mêmes disent que c'est la chaîne, elle est faible. La chaîne de transmission de ce hadith-là est faible. Parce que Oumou Atiya serait une juive qui n'était pas une musulmane. Alors, le prophète, puisqu'il est pédagogique, paix et salut sur lui, dans sa démarche, pour ne pas faire abandonner aux païens toutes leurs pratiques, en tout cas coutumières, alors elle essaie d'emprunter une voie pédagogique pour petit à petit faire abandonner ces pratiques qui ne sont pas en lien avec la pratique de l'islam. Alors, par rapport aux prévalences, effectivement, 81%, je crois que le docteur l'a rappelé, c'est les 5 premières régions du sud, en tout cas au niveau du Mali, et le district de Bamako. Alors, si nous prenons Kay, si vous voyez les statistiques de 2012, alors la prévalence de Kay baisse de 98% à 95%. Si vous prenez Kulikoro, de 97% à 94%. Si vous prenez Sikasso, de 92% à 91%. Alors, si vous prenez Ségou, c'est pareil. Donc, si vous prenez région par région, même le district de Bamako, de 92% à 90%. Je pense que c'est des pas qui sont constatés. À Mopti, alors nous constatons que la prévalence a monté parce qu'il y a 3 sectes de Mopti qui n'ont pas été concernés par l'enquête. Douanza, Ténéngou et Yuwaru. Et les régions du Nord. n'ont pas été concernés. Alors, c'est pourquoi cette prévalence qui est annoncée par l'EDS, si nous devons tenir compte des régions du Nord et des trois sectes de mobilité qui n'ont pas été concernés, alors on se trouverait à un taux de prévalence encore plus bas que 85%. Parce que 85%, c'est le taux de l'EDS 4. Et lorsque nous faisons cette simulation, alors on serait en deçà de cette prévalence. Alors, il faut comprendre que l'excision, comme je l'ai dit, c'est des pratiques sociales. C'est des normes qui sont établies. Alors, pour faire changer ces normes, ça demande du temps. Et les gens ont besoin de comprendre avant d'abandonner. Et je pense que l'explication qu'on doit donner, l'explication scientifique par rapport à l'anatomie et à la physiologie des organes génitaux, et qui se trouve être atteint par la pratique de l'excision, c'est ce qu'il faut expliquer et faire comprendre aux populations que l'excision nuit à la santé de la reproduction. Alors, tout ce qui est nuisible à cette santé-là doit être abandonné. Même le religieux serait d'accord avec nous que tout ce qui va nuire à l'être humain, le religieux ne doit pas cautionner cela. Dans la mesure où, et un des piliers de l'islam, le jeûne, alors, il est dit que lorsque vous sentez malade, lorsque ça ne va pas sur le plan sanitaire et que vous devez jeûner, le docteur peut vous conseiller de ne pas jeûner. Et l'islam est tolérant par rapport à ça. Donc l'islam vous conseille de ne pas jeûner parce que ça risque d'aggraver votre maladie ou ça risque de poser des soucis de santé à votre niveau. Donc pour dire tout simplement que voilà un plan qui est obligatoire. Lorsqu'un agent de santé se prononce alors sur ton état de santé par rapport à ce jeûne-là, tu dois l'abandonner. Alors que cette pratique n'est ni obligatoire, ni sunna, c'est facultatif. Alors dès que c'est facultatif et que l'agent de santé qui est assermenté, qui se prononce là-dessus, alors il est tout à fait logique et raisonnable qu'on doit être à l'écoute de ce personnel de santé parce que c'est son domaine de compétence, parce qu'il sait ce que c'est cette pratique et ses complications. Donc pour dire tout simplement que des communautés, je l'ai dit, ont compris. Aujourd'hui, nous avons dénombré 1211 communautés qui ont accepté de faire des déclarations publiques ou de signer des conventions locales contre cette pratique, sans compter des centaines de villages, de communautés qui ont cessé la pratique sans faire de déclaration, ou encore des centaines de villages au Mali qui n'ont jamais pratiqué l'excision. Donc l'excision n'est pas une pratique dans leur coutume. Donc, il faut relativiser les choses.
Monsieur Barago, on vous retrouvera dans un instant, le temps de retourner dans ce studio pour donner la parole au docteur Aissata Diakité Ouattara. Alors, Madame Ouattara, vous savez qu'il y a beaucoup de campagnes, mais les chiffres sont là et ils parlent.
Bien sûr.
Alors, votre avis?
Les chiffres parlent, ça veut dire que la sensibilisation est en train de porter fruit. Puisque, comme disait Monsieur Bakayogo, l'EDSI a dit que la prévalence est de 85,2% au Mali actuellement. Donc on voit qu'il y a une baisse nette de la pratique maintenant. Et je vois que aussi, il n'est pas dit qu'au Mali, un jour, il n'y aura pas une loi. C'est quelque chose qu'il faut en parler aussi, puisqu'il y a des projets de loi qui sont en cours. Et après la sensibilisation, obligatoirement, il y aura une loi au Mali. Puisque dans tous les pays voisins, déjà, il y a une loi qui existe pour interdire cette pratique qui nuit à la santé de la femme, à la santé de la reproduction, à la santé de la famille tout court.
Alors, nous avons à présent en ligne Nathalie Sidibé, elle est de l'association Femmes Leadership pour le développement durable. Alors, dites-nous, Nathalie Sidibé, cette question de l'excision pour votre association, c'est un problème quand même auquel vous accordez beaucoup d'importance, hein? Nathalie Sidibé. Alors, je crois que nous allons essayer de revoir parce que la liaison semble assez terrible parce qu'on ne comprend rien de ce que disait Nathalie Sidibé. Nous allons en attendant retourner dans ce studio. L'imam est là, Modibo Kansai. Modibo Kansai, vous avez donc entendu Youssouf Bakayoko du Programme national de lutte contre l'excision. J'ai eu l'impression que vous avez envie de réagir.
Non, je n'ai pas envie d'arranger.
Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit?
Oui, parce qu'il a dit que sunna, et puis il a parlé de mustahab. Donc, tous les mustahab ou tous les sunna, donc on voit Déjà que si l'islam parlait, donc on doit l'avoir. Parce que c'est un sunna. Donc c'est sunna surtout à propos des femmes, que mustahab. Mais si mustahab d'un part, s'il blesse, souvent, mais s'il ne blesse pas, on peut continuer ou on peut laisser, ça dépend.
Voilà, je crois que
ça dépend docteur... de surtout l'islam. Mais moi, je ne veux pas l'imposer. Surtout comme certains ont dit, on peut pas. Alors, peut-être loi veut poser, celui-ci lui a posé. Bon, c'est quelque chose qu'on doit le voir. Parce que souvent, quelque chose, en début, on veut laisser à côté. Dans l'avenir, on veut voir les conséquences. Dans l'avenir, on veut voir les conséquences. Donc, il faut que ce pays-là, c'est un pays de l'islam, c'est un pays de quoi? De... Comment je veux dire? De...
Donc, vous êtes compris, voilà. Imam, présent, nous allons donner la parole au docteur Aïssata.
Voilà, chose que...
voilà, le docteur Aïssata Diakité Ouattara qui va donc réagir.
D'accord. Je vais demander à l'imam. Ce que Issou Bagayogo a dit concernant le jeûne, quand quelqu'un est malade, il vient nous voir. Nous, on apprécie son état de santé, voir s'il peut jeûner ou pas. L'islam autorise ça. On dit de ne pas gêner, la personne ne gêne pas, l'imam ne dit rien. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît, l'imam. Alors, concernant la santé de la femme aussi, surtout la santé de la reproduction, si... le docteur dit que il faut pas faire cette pratique parce que ça peut nuire à la santé de la reproduction de la femme. L'imam doit écouter. Comme il accepte de ne pas faire le jeûne, que l'imam accepte aussi de ne pas qu'on n'excise pas les filles parce que ça nuit à leur santé.
Madame, je suis d'accord avec vous d'un côté.
L'imam conseille, allez-y. Oui.
il y a des problèmes. Parce que les docteurs, il faut faire beaucoup attention. Parce que les docteurs, c'est comme un musulman docteur. En cadre d'islam, il faut parler dans cadre islam. Si quelqu'un est gêné, ou bien s'il ne gêne pas. S'il y a des problèmes, ou bien s'il y a des problèmes. C'est le médecin qui est le responsable principal devant les dieux. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, si il touche, il va frapper quelque chose, on va laisser. Mais s'il ne touche pas, il va y aller, son santé, ça ne veut rien. Donc, il va continuer comme le Maouin a dit, c'est les deux points. Mais, on l'attend, les paroles de... quoi là?
Du docteur.
Le docteur. Si le docteur dit, il n'y a pas de problème. Donc, en tant que musulman croyant, le docteur il a dit, c'est le docteur qui est le responsable maintenant.
Bien sûr.
Il n'y a pas de problème avec les gens à mon compréhension. Hein. Parce qu'il y a un certain point, il faut qu'on l'entend avec le docteur. S'il a dit, vraiment, moi j'ai de l'estomac. Vous ne pouvez pas gêner. Donc, en tant que musulman, moi je parlais, en tant que lui est un musulman, il parlait au cadre d'islam, moi je n'ai pas de problème. C'est ça.
Alors, nous avons donc.
Je ne réalise pas pour ça. Hein.
Alors, vous êtes compris, l'imam, nous avons cette fois-ci, je crois que la liaison est bonne, Nathalie Siribé de l'association Femmes Leadership pour le développement durable. Alors, dites-nous, Nathalie, je crois que l'exigence est un sujet auquel vous personnellement vous êtes beaucoup sensible. Hein.
Oui, bonsoir à tous. Vraiment, l'excision, c'est un problème qui nous touche et qui me touche réellement, personnellement, en tant que femme qui a suivi la pratique. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, ce n'est plus un sujet tabou et c'est une pratique qui diminue selon les taux. Nous en sommes heureux. Mais n'empêche, il faut, comme certains l'ont déjà dit, il faut beaucoup plus l'implication des religieux afin que les gens puissent savoir que c'est une pratique qui n'est pas du tout liée à la religion. C'est une pratique qui date depuis bien avant la religion, depuis l'Égypte pharaonique, selon certaines recherches. Donc, si les religieux s'y mettent dans les plaidoyers, auprès de la population, je suis sûre que dans peu de temps, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui va prendre fin du jour au lendemain, mais voilà, ça va diminuer rapidement.
Alors, vous gardez donc la ligne, il est 18h45, la suite de ce débat dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
La lutte contre l'excision au Mali, où en sommes-nous? Je rappelle que c'est ça le sujet du grand dialogue de ce mardi et nous en parlons avec nos invités qui sont Mme Mokone Faridjop de l'AMPF, l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille, Dr Aïssata Diakité Ouattara qui est également là, elle est de l'APDF. L'APDF, c'est l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes. L'imam est là, l'imam Moribo Kansai qui prend part au débat. En ligne, nous avons Youssouf Bagayoko, il est du programme national de lutte contre l'excision, et Nathalie Siribé de l'association Femmes Leadership pour le développement durable. Nous avons parlé de campagne de sensibilisation. Alors, cette question à présent, la campagne de sensibilisation menée contre l'excision au Mali est-elle suffisamment bien adaptée? Autrement dit, est-ce qu'elle tient compte du caractère assez délicat du sujet? À vous, je pose la question, Madame Mokone Faridjop.
Oui, elle est adaptée. C'est des causeries que nous menons avec la population, avec comme support des signes ou bien des photos très très édifiantes sur vraiment la dangerosité de cette pratique. On arrive à convaincre avec la sensibilisation qui est menée. Mais on l'a dit tantôt, c'est des pratiques qui sont liées à nos coutumes. Et ce n'est pas facile de nous débarrasser de nos coutumes. Ça fait partie de nous. Je le comprends parfaitement. Et c'est une lutte de longue haleine. Ça peut prendre des années, peut-être beaucoup des siècles, pourquoi pas, parce qu'on a commencé cette lutte depuis très longtemps. Il faut juste avoir la patience, ne pas brusquer les choses, et y aller doucement, convaincre. Et il n'y a pas meilleur moyen de convaincre que ce qui est là présent, c'est-à-dire les séquelles que laisse cette pratique sur les femmes, les décès liés à cette pratique, les traumatismes et tout le reste. Et donc, il faut juste ne laisser aucune occasion pour vraiment sensibiliser. Il faut que les imams, les religieux nous appuient beaucoup. Et ce que l'imam Kansai a dit me rassure, parce que si je le comprends, c'est une pratique, bien sûr, qui n'est pas obligatoire, qu'on peut laisser si ça pose problème, un problème de santé. Et je ne vois pas une excision qui ne pose pas de problème de santé. Je n'en vois pas. Et donc, ça peut être une raison pour convaincre davantage les imams de nous accompagner dans cette lutte. Convaincre les leaders politiques de nous accompagner dans cette lutte. C'est-à-dire ne laisser aucun moyen, aucune occasion vraiment de faire baisser cette pratique et pourquoi pas l'abandonner. Et jusqu'à la loi. Comme l'a dit docteur, je pense qu'on peut aller vers ça. Peut-être que c'est trop tôt, mais de toute façon, un jour ou l'autre, il faut en arriver à ça. Parce que quand même, vraiment, c'est un problème de santé publique, l'excision.
Youssouf Bagayoko, alors à vous cette question. Concernant la sensibilisation, on sait qu'elle est beaucoup importante dans cette lutte. Est-ce que tous les terrains ont été explorés?
Oui, en fait, j'ai écouté avec attention les interventions. Je me réjouis que nous sommes en train de mettre l'accent sur la sensibilisation des populations parce que, de toute façon, même si nous avons la loi, la loi n'est pas une panacée. Comme l'a dit tantôt aussi un intervenant, les pays qui nous entourent ont déjà légiféré. Alors, il n'y a aucun pays qui est frontalier avec le Mali qui n'a pas légiféré, sauf l'Algérie qui ne connaît même pas la pratique. Alors, vous voyez qu'on est exposé.
Mais dites-nous, M. Bagayoko, comment est-ce que les choses ont évolué à ce niveau? Vous parlez de législation, nous n'avons pas légiféré, mais est-ce qu'on est au même stade? Est-ce qu'il n'y a pas d'évolution?
Oui, en fait, il y a évolution et nous sommes en train d'y travailler. parce que nous, il y a 3 ou 4 jours comme ça, nous étions avec les députés, alors qu'ils avaient besoin de comprendre un peu toutes les complications liées à cette pratique et aussi savoir quelles peuvent être les procédures que l'État ou les députés, ou en tout cas les départements ministériels pourraient engager pour pouvoir aller vers cette loi. Parce que il s'agit de protéger l'enfant malien, il s'agit de protéger la fille malienne, il s'agit de protéger la femme malienne. Donc il ne s'agit pas de protéger quelqu'un de façon séparée. Donc si il a été prouvé, il a été constaté, il a été observé que l'excision nuit à la santé de la personne humaine, porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine, alors il est du devoir de l'État, un devoir régalien de l'État d'aller vers cette loi qui doit protéger, parce que voyez la constitution du Mali, article 1er, article 2, article 3, article 17, quand vous lisez ces articles-là, vous verrez que l'excision porte atteinte à ces articles-là, et c'est la loi fondamentale. Donc pour dire tout simplement que nous devons y aller, parce que l'État également malien a pris des engagements au plan international, au plan sur-régional, en ratifiant des textes alors qui engagent l'État malien à protéger les filles, à protéger les femmes contre des pratiques nuisibles, notamment la pratique de l'excision. Alors, la loi ne se décrète pas tout de suite. La loi se prépare. Nous sommes en train de non seulement de réunir toutes les évidences au niveau communautaire, parce que les villages qui ont déjà déclaré l'abandon, qui ont fait des signatures, sont en train de réclamer cette loi pour, en tout cas, les protéger davantage. Parce qu'eux, à défaut de la loi, ont pris des engagements au niveau communautaire pour interdire sur leur territoire des communes. Mais cela ne suffit pas. Nous devons aller au-delà. Donc nous sommes en train de réunir ces évidences. Nous sommes en train d'aller vers les leaders politiques, vers les leaders religieux, vers les décideurs qui sont en mesure de nous accompagner, qui sont en mesure à un moment donné de décider, en tout cas, cette prise de loi. Parce que la finalité, c'est ça.
Monsieur Barayoko,
ça ne se déclare pas pour quelqu'un, mais pour protéger, en tout cas, la fille malienne, la femme malienne, autrement dit, pour le bien-être de la famille.
Ah, monsieur Barayoko, si le temps nous le permet, nous vous retrouverons dans un instant. Nous sommes de retour dans le studio. Cette question au docteur Aïssata Diakité Ouattara. Alors, dites-nous, madame Ouattara, si l'on en arrivait un jour à mettre en vigueur une loi qui réprime l'excision, quelles pourraient en être les conséquences? Une telle démarche ne risquerait-elle pas de rendre la pratique plus clandestine et plus risquée? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que prendre une loi serait bonne. Même si ça va être une loi décisionnelle, il faut la prendre quand même.
Mais avec un travail en amont, peut-être.
Avec un travail en amont qui est en train de se faire, comme vient de le dire Barayoko. Ce travail est en train de se faire. Ils sont en train de sensibiliser les députés et aussi de rappeler aux députés les conventions que le Mali a signées, que le Mali a ratifiées et que le Mali doit appliquer. Donc, si on voit, d'un côté, on pourra dire que le Mali est en train même de violer ses lois, parce que l'excision est une pratique qui est nuisible à la femme, à la santé, de la reproduction. Et toutes les conventions que le Mali a signées, internationales, sous-régionales ou nationales, parlent un peu de l'abandon de cette pratique. Parce que ça nuit à la santé de l'enfant, de la fille et de la femme. Donc je pense qu'avec une prise de loi, légiférer sur cette loi ne pourra pas donner l'effet contraire. La clandestinité peut-être va se faire, mais beaucoup peuvent laisser aussi en se basant sur la loi. Si je fais, c'est interdit, donc je peux être réprimé, je peux être enfermé. Ça fera en sorte que beaucoup vont laisser cette pratique.
À présent, votre réaction, Madame Kone Faridjop.
Effectivement, je pense que la loi peut changer beaucoup de choses. Peut faire aller vite en avant l'abandon de l'excision. Effectivement, on ne peut pas prendre cette loi et immédiatement l'appliquer. C'est une loi peut-être dissuasive qui simplement est là pour vraiment faire comprendre aux gens que quand même c'est la santé des filles qui sont en jeu et on ne joue pas avec. Bon, pour le moment, on met l'accent sur la sensibilisation, c'est une bonne chose. Et comme l'ont dit mes prédécesseurs, mes collègues, ça fait déjà effet, ça donne des résultats. Souhaitons que ça aille encore plus loin. La loi viendra en appui à tout ça. Et je pense que ce problème de clandestinité, c'est à craindre, bien sûr, mais ça ne peut pas être un frein. Hein? Y aura toujours des problèmes, certainement. Mais je pense que le fait que cette loi peut peser sur les gens, leur montrer que vraiment cette pratique-là, elles doivent l'abandonner au risque de, bon, je ne sais pas, de leur liberté ou pourquoi pas, d'encourir certaines sanctions. Je pense que ça peut être plus dissuasif aujourd'hui que la sensibilisation tout court. Mais bon, on fera en tout cas avec ce qui sera décidé. Pour le moment, on en est encore à la sensibilisation. On est en train aussi de convaincre les décideurs, comme ils l'ont dit, au niveau des exciseuses, que cette loi est nécessaire. On met toujours aussi l'accent sur la sensibilisation. Les médecins doivent faire beaucoup parce que c'est eux qui connaissent effectivement la gravité de cette pratique. Donc, ils doivent aussi s'impliquer davantage, expliquer davantage, montrer ce qu'il y a à montrer pour que les gens se rendent compte. Parce que j'ai l'impression que jusque-là, il y a encore quelque chose qui reste dans la conscience, dans la perception de la nocivité, de cette pratique. Mm-hmm. Donc vraiment, je pense que vraiment, si on s'y met tous, je pense qu'on peut faire beaucoup pour refaire reculer cette pratique le plus loin possible.
Alors, l'imam Kansai, vous êtes bien compris, donc vous pensez que l'excision, c'est une pratique contre laquelle il faut quand même se battre, il faut prendre des mesures pour que un jour on l'abandonne.
Bon, c'est le médecin qu'on l'appuie. C'est le médecin qu'on l'appuie à leurs paroles pour cette.
Autrement dit, vous êtes derrière les médecins, c'est ça?
Oui, moi je suis derrière les médecins, parce que le médecin qui connaît, c'est dit que le problème. Parce que c'est quelque chose, on dit Sunna Khifada. C'est-à-dire Sunna Turasul, Yamne Khafada, Yani, Lisa. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire, mais il faut faire beaucoup attention. Si le prophète l'a dit, son parole c'est sacré. Son parole entre l'homme et enfin, entre les dieux. Mais c'est le médecin qui voit maintenant. Entre la gravité, prend. Ou à laisser. S'il y a des problèmes, on dit, ah, nous ne connaissons rien. On demande le médecin.
Alors, il nous reste juste, d'ailleurs, moins de deux minutes. Alors, docteur Aïchata Djakite Ouattara, le mot de la fin.
Le mot de la fin, je souhaite que l'excision soit abandonnée au Mali pour de bon. Et dans un temps bref. Si possible.
Ah, docteur, Madame Koné Fari Diop, puisqu'il reste encore quand même quelques dizaines de secondes.
Oui. Un appel, un grand appui, un sursaut pour que vraiment tout le monde s'y mette. Et en avant les imams, les religieux qui ont un poids très très fort dans la conscience des gens. Et je pense que s'ils nous appuient, ça peut aller plus loin.
Voilà, c'est sur ces propos que s'achève le grand dialogue de ce mardi. Je rappelle que le thème, c'était l'excision, la lutte contre l'excision au Mali. Où en sommes-nous? On participait au débat, Madame Koné Fari Diop de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille, le docteur Aïssata Djakite Ouattara de la PDF, l'Association pour le progrès de la défense et la défense des droits des femmes, l'imam Modibo Kansai, qu'il faut beaucoup remercier également. Et nous avions en ligne Youssouf Bagayoko, il est du PNLE, c'est-à-dire le Programme national de lutte contre l'excision, et Nathalie Siribé de l'Association Femmes Leadership pour le développement durable, qui était également en ligne. Mise en onde Gagné Kanté et régie vidéo Mamadou Ouattara et réalisation Ousmane Diadje Traoré. On se retrouve demain.
Le grand dialogue.
C'est Kikafoba. Et toi, Edewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Mawli.
Chenne.